Alors nous remercions notre Seigneur pour sa parole. Nous prions que sa parole puisse continuer à agir en nous parce que le Seigneur nous l'a laissé. L'apôtre Pierre dit que nous avons été régénérés par la parole vivante de notre Seigneur. Et le Seigneur continue son œuvre dans nos cœurs à travers sa parole. Tant et si bien que à nous de prendre le temps de la lire, de l'étudier et trouver en elle ce dont nous avons besoin jour après jour. Alors nous sommes en train de voir ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui prêche sur cette montagne à cette foule et dans cette foule il y avait de ses disciples aussi. Et nous sommes en Luc chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 27. Donc le Seigneur, il a choisi ses apôtres. Et donc, il a donné une première partie, en tout cas, c'est ce que Luc reprend, où il encourage ses disciples, leur disant qu'ils sont heureux, ils sont bénis, parce que le royaume de Dieu est à eux. Et il leur dit que quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, sachez que vous êtes, ça n'enlève en rien cette réalité. Oui, vous êtes heureux. Et même si aujourd'hui il y a la souffrance, mais sachez que dans l'avenir, il y aura de la joie. Et donc à plusieurs reprises, il leur dit, donc réjouissez-vous. Et tressaillait d'allégresse. Le chrétien est heureux car il sait donc qu'il est entré dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit à Nicodème que voilà, si il veut entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Donc la nouvelle naissance, c'est ce que nous avons lu aussi dans les Thessaloniciens, où l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens voilà, que nous avons appris comment ils se sont convertis à Dieu, voilà, en abandonnant les idoles, pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et donc, le jour où nous avons mis notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, nous nous sommes convertis à Dieu en nous tournant le dos à toute cette mauvaise façon de vivre et pour vivre selon Dieu. Et en acceptant Christ dans nos cœurs, le Seigneur nous dit que nous sommes entrés donc dans son royaume. Et nous sommes dans son royaume, nous sommes heureux. Et dans ce cheminement, l'apôtre Paul il parle de course, la vie chrétienne est comme une course, nous devons toujours garder nos yeux fixés sur notre Seigneur Jésus. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, sachant la joie qui lui était réservée dans les cieux. Et le Seigneur Jésus, connaissant cette joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, il est dit, il a méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite de Dieu. Mais c'est connaissant la joie qui lui était réservée. Et c'est aussi ça que le Seigneur Jésus nous dit là. Oui, aujourd'hui, vous êtes pauvre. Aujourd'hui, vous passez par des moments difficiles, mais vous connaissez déjà la joie qui vous est réservée. Et c'est cette connaissance qui fait que nous allons persévérer et continuer à avancer avec notre Seigneur, quelles que soient les difficultés. Alors, continuons la lecture de ce texte de Luc chapitre 6 et le Seigneur Jésus, là, va mettre l'accent sur la différence qu'il doit y avoir entre celui qui dit être son disciple et ceux du monde. Et là, nous allons voir quelle est la bonne attitude à avoir vis-à-vis des non-croyants. Alors, lisons à partir du verset 27, où il est dit, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Nous arrêtons là pour la lecture de la parole. Alors, la bonne attitude à avoir vis-à-vis des non-croyants, vis-à-vis de ceux qui, malheureusement, et parfois c'est une réalité, peuvent nous faire du mal. Dans ce passage, le Seigneur Jésus nous montre qu'il est conscient que son disciple ne vit pas dans un monde merveilleux. Il sait, on va dire, qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Il sait que son disciple devra vivre comme une brebis au milieu des loups, puisque le chrétien sera confronté à des ennemis, à des gens qui vont le haïr, à des gens qui vont le maudire, le maltraiter. Et ces chrétiens seront confrontés donc à la maltraitance, à la violence physique, au vol ou même sera spolié. Et le Seigneur sait que donc, son disciple devra vivre dans un monde cruel. Et puisque lui-même, il a vécu dans ce monde et il a connu en son corps la cruauté de l'homme. Il a connu en son corps la cruauté de l'homme. Il avertit ses disciples et il les encourage et il leur dit, moi, ce que vous connaissez, sachez que je l'ai connu aussi. Et si le Seigneur demande à ses disciples cela, c'est parce qu'il sait que c'est lui qui leur donnera les capacités pour tenir ferme face à toutes ces difficultés. C'est lui qui va leur donner les capacités en attendant cette joie qui leur est réservée dans les cieux. Et l'apôtre Paul, il dit en 1 Corinthiens chapitre 4, versets 11 à 13, et nous savons qu'il a été énormément éprouvé dans sa foi, dans sa vie, à cause donc de sa foi aussi. Et il a tenu bon parce qu'il savait aussi quel était son avenir. Quel avenir lui réservait son Seigneur. Quelle joie lui était réservé. Et c'est pour cela que face aux difficultés, il a pu tenir bon. Il dit dans Corinthiens 4, versets 11 à 13, « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde. le rebut de tous jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul, quelques années après, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et voilà comment il vivait face aux persécutions. Donc, il mettait en pratique ce que le Seigneur Jésus avait déjà annoncé là, dans ce sermon sur la montagne. Et parce qu'il avait reçu aussi, bien sûr, en tant que chrétien, l'Esprit de Dieu qui l'a aidé à voir les choses de cette manière. Donc l'apôtre Paul a été encouragé et nous sommes aussi encouragés à tenir bon, à tenir ferme face aux difficultés, aux atrocités que nous pouvons rencontrer. Et je pense aux chrétiens qui sont persécutés dans le monde, qui sont confrontés à vraiment parfois leur vie même est en danger. Et quand ils lisent ces paroles, lorsqu'ils sont face à leurs persécuteurs, que le Seigneur leur donne la force aussi d'aimer. Face à toutes les difficultés ou situations qu'il rencontrait, donc l'apôtre Paul, il dit « Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. » L'apôtre Paul ne voulait pas que le nom du Seigneur Jésus soit calomnié. Il voulait montrer la différence, justement comme il est dit dans Malachie, la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il voulait montrer aux hommes qui étaient là autour de lui, ces hommes méchants, que lui, ce qu'il annonçait, il le montrait par sa vie, il montrait qu'il n'était pas cruel comme eux, et que même si, comme la loi dit, œil pour œil, dent pour dent, il avait en lui cette loi de Christ, l'amour du prochain. Et le Seigneur Jésus, dans ce sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, a dit donc à ses disciples qui sont, il dit, vous êtes le sel de la terre. Ils sont le sel de la terre. Il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Donc, ses ennemis, ceux qui vous haïssent, ceux qui vous maudissent, que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et ça, on le trouve dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Et si le Seigneur nous encourage à tenir ferme, comme l'a fait l'apôtre Paul, il nous montre aussi donc, comment vivre dans ce monde avec ceux qui nous entourent, ceux qui nous veulent du mal, ceux qui nous font du mal. Il nous demande de manifester notre différence dans ce monde en ayant envers les autres, même les inconvertis, un amour inconditionnel. Donc, comment le chrétien peut-il apporter ce plus dans cette société, une société que nous voyons, que nous constatons, qui se décompose de jour en jour? Comment être une lumière dans ce monde qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres? Et une sœur tout à l'heure priait pour nos jeunes, nos enfants qui vont à l'école. Il faut vraiment que nous prions, frères et sœurs, pour eux, parce que c'est vraiment dur. Et c'est presque avec crainte et tremblement que nous devrons les envoyer, mais nous devons les faire parce que nous savons que le Seigneur est avec eux et que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et les jeunes, les enfants doivent entendre aussi cela. Comment être une lumière dans, dans mon école, dans ma classe, comment être différent, comment être avec celui qui me veut du mal. Et là, le Seigneur nous encourage à être la lumière du monde, la lumière, être le sel de la terre. Et là, j'aimerais souligner trois points à travers ce texte que nous avons lu dans Luc chapitre 6. Quand il nous demande d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, voilà, c'est ce que le Seigneur nous demande, c'est de faire du bien aux autres. Faire du bien même à ceux qui nous haïssent, ceux qui nous font du mal. Mais nous devons aussi montrer notre différence. Après, dans versets 32 à 35, le Seigneur dit, voilà, mais si vous aimez ceux qui vous aiment, et quel gré vous en sera-t-on, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Voilà. Si vous faites comme les inconvertis, si vous ne faites pas plus, quelle différence? Vous devez pouvoir montrer votre différence. Mais il nous montre aussi le chemin, il nous montre que c'est en recherchant à ressembler à notre maître, à notre Seigneur, à notre Dieu. Et nous pouvons donc faire luire la lumière de Christ qui est en nous. Vous êtes la lumière du monde en faisant du bien aux autres. Et le Seigneur rappelle cette règle, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc que voulons-nous que l'on fasse pour nous? Si ce n'est qu'on nous aime, qu'on nous fasse du bien, qu'on dise de bonnes choses sur nous, que l'on prie pour nous, etc., etc. Mais toutes ces choses que nous voudrions que les autres fassent pour nous, on ne l'attend pas de nos ennemis, on ne l'attend pas de ceux qui nous font du mal, on l'attend plutôt de ceux dont nous savons qu'ils nous aiment. Alors le Seigneur dit, mais quelle différence il y a? Quelle différence y a-t-il entre le chrétien et celui qui ne l'est pas si on attend du bien que de ceux qui nous font du bien? Et là, le Seigneur nous montre qu'il attend de ses disciples qu'ils fassent ce qui sort de l'ordinaire, qu'ils se distinguent des inconvertis. Ces choses extraordinaires qu'il nous demande et ne pourront se faire que si nous nous laissons conduire par son esprit. Et donc ça sous-entend que ces choses extraordinaires qu'il nous demande, nous ne pouvons le faire que si nous avons son esprit en nous. Parce que lorsque nous lisons ce texte, si nous n'avons pas son esprit, donc ça veut dire que si nous ne sommes pas chrétiens, nous trouvons que c'est un scandale. Nous dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est impossible ce qu'il me demande là. Et puis, quand on lit dans les évangiles, lorsque certains, quand ils ont entendu les exigences de Jésus, alors beaucoup l'ont abandonné. Parce qu'il dit, mais ce qu'il demande là, c'est trop dur. Donc, ils abandonnent. Et il y a des gens comme ça aussi, qui viennent, qui lisent. Et puis, dès qu'ils entendent certaines choses, voilà, aimez vos ennemis, ça, c'est trop dur. Donc, moi, je laisse tomber, ce n'est pas pour moi. Mais il faut comprendre que ce que Jésus-Christ demande là, il dit, ce n'est pas toi qui sauras le faire, c'est moi qui vais le faire à travers, en toi. Et c'est parce que je vais te donner les capacités que tu pourras le faire. Et ce que je te demande n'est pas au-dessus de ce que moi je pourrais faire pour toi. Donc il faut avoir l'Esprit de Dieu. Ça veut dire tout simplement, il faut mettre sa confiance en Jésus, se convertir à Christ, accepter Christ dans son cœur comme son sauveur, lui dire, Seigneur, oui, je reconnais que de moi-même, je ne pourrais pas faire ce que tu me demandes, mais je veux placer ma confiance en toi et croyant que ce que toi tu me demandes, mais tu pourras l'accomplir. Et l'apôtre Paul, il a pu justement témoigner de cela, disant que, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, mais la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Il dit que la grâce de Dieu qui est en lui, c'est ce qui l'a aidé, c'est ce qui l'a accompagné. Et tout ce qu'il a pu faire, c'était que par la grâce de Dieu. Et dans 2 Corinthiens, il dit que sa capacité vient de Dieu. Donc il était réellement, il était conscient de cette réalité, de la présence de Dieu en lui et de la capacité que Dieu lui donne pour accomplir ce que Dieu lui demande. Et ce que le Seigneur nous demande, il sait aussi qu'il va nous donner les capacités pour le faire. Nous étions, nous aussi, ennemis de Dieu. Nous avons lu que le Seigneur nous a arrachés des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et dans Romains, l'apôtre Paul dit que Dieu il prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car si lorsque nous étions ennemis, vous avez été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous étions ennemis et Dieu nous a aimés et il nous a sauvés. Et l'apôtre Jean nous dit que si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier, alors que nous étions encore ennemis. Et cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul le reprend aussi dans Romains chapitre 12. On peut tourner les pages avec moi et puis lire ce texte. Donc c'est un enseignement que les apôtres ont repris, parce que c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 12, à partir du verset 14, il dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et donc, cet enseignement-là est repris. Je lisais l'histoire d'un homme qui... dont le frère avait perdu son fils. Son fils avait été tué par un toxicomane. Et la personne racontait que, bien qu'étant attristé par ce drame, le père a refusé, il dit, de s'abandonner à l'amertume et à la haine, et a préféré continuer à souhaiter le salut du meurtrier de son fils et de prier en ce sens. Et le père a lui-même rendu visite en prison à cette personne afin de lui donner, il dit, la plus grande bénédiction qui soit l'évangile. Et Dieu a donné à ce père les capacités, la force de pardonner à cette personne qui avait tué son fils et même d'aller le visiter. Vous connaissez peut-être l'histoire de Corrie ten Boom, cette femme hollandaise. Son père avait fait une cachette dans sa chambre pendant donc, la Seconde Guerre mondiale. Et donc la famille a recueilli et protégé beaucoup de juifs, d'étudiants, mais aussi les résistants. Et elle a été... Elle a reçu le titre de juste parmi les nations, Corrie ten Boom, parce qu'elle avait sa foi en Jésus. Et Malheureusement, il y a eu quelqu'un qui les a trahis et a dit à la Gestapo que cette famille hébergeait, cachait des juifs. Et donc, elle a été arrêtée, la famille a été arrêtée. Et le père, quelque temps après, est décédé de pneumonie. Et donc, ils ont été transférés dans des centres de concentration. Et puis, elle dit que, bon, sa sœur, elle est morte. Et elle-même, elle a été libérée, entre guillemets, ils disent parce qu'il y avait une erreur administrative. Mais cette femme, elle a prêché l'évangile, elle a annoncé l'évangile du pardon, justement, lorsqu'elle a rencontré l'un de ses geôliers, elle l'a pardonné. Et au lieu de garder la colère, bien qu'elle était en colère au départ contre cet homme qui les avait livrés aux Allemands, elle a compris aussi qu'il fallait qu'elle pardonne. Et j'avais noté cela quand elle dit il fallait que le Seigneur lui a montré qu'elle devait apprendre. Qui devait lui pardonner, elle devait apprendre à pardonner pour avancer. Et ce que j'ai bien aimé dans une citation, quand il dit que dans son livre, une grande voyageuse devant le Seigneur, elle dit que la solution à son désir, donc de représailles avec ses ennemis, cette solution-là, au lieu d'en vouloir à ses ennemis, ça a été de rechercher chaque jour une provision fraîche auprès de son Seigneur. Ça a été de trouver en son Seigneur chaque jour les ressources nécessaires pour pouvoir pardonner à ceux qui l'ont offensé et qui ont permis ces drames, parce que à cause de ça, elle a perdu son père, après sa sœur, elle est décédée. Donc, cette provision fraîche, chaque jour, là, elle allait chercher auprès du Seigneur. Et elle a fait ce que nous avons vu la semaine dernière dans le psaume 1, verset 2, qui dit que le juste, celui qui ne marche pas en compagnie des méchants, etc., mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Et c'est ce qu'elle faisait, cette dame. Le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, face à ses ennemis, et c'est l'apôtre Pierre qui nous dit ça aussi. Bon, nous connaissons les textes des évangiles où on voit l'attitude de Jésus par rapport à ses ennemis, même sur la croix. Et dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, où l'apôtre s'adresse à ces chrétiens qui beaucoup étaient donc persécutés, souffraient justement à cause de leur foi. Je peux lire à partir du verset 18. Il dit: Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Verset 19. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Donc, on lisait tout à l'heure là l'exemple de l'apôtre Paul, son attitude. Alors, c'était l'attitude de Jésus-Christ aussi. Donc, lorsqu'on est disciple de Jésus, on cherche à calquer notre vie sur celle de son maître. Le Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font ». Étienne, le disciple de Jésus-Christ, alors qu'on le lapidait, il a prié le Seigneur, il dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Oui, le Seigneur donne les capacités, il donne la force aussi pour supporter, pardonner. Et même si c'est difficile, mais il donne la force pour pouvoir le faire. J'avais lu aussi que l'hypertension artérielle et d'autres maladies reliées à l'anxiété sont causées non par de graves problèmes à long terme ou des pressions qui mettent la vie en péril, mais par des attitudes persistantes de ressentiment et d'hostilité qui minent les gens qui réagissent habituellement de manière négative aux situations et aux gens désagréables. Voilà. Donc, remettons chaque situation entre les mains du Seigneur et que ces situations qui sont dures, voilà, que ne nous dominent pas au point de nous rendre malades, mais remettons ça et puis croyons, comme nous l'avons lu dans Romains chapitre 12, voilà, le Seigneur dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Donc laissons les choses, laissons le Seigneur agir et nous confions nous entre ses ailes. Donc nous devons montrer la différence par notre vie. Nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, le Seigneur nous demande de ne pas juste faire comme les autres, mais de montrer par notre vie que nous pouvons faire mieux et nous pouvons faire plus. Le Seigneur dit au verset 35 en aimant nos ennemis, en leur faisant du bien, en prêtant sans rien espérer, cela témoigne que nous sommes réellement des fils du Très-Haut. Donc c'est à travers toutes ces choses que nous rencontrons au quotidien que nous montrons la réalité aussi de notre foi. Nous montrons la réalité de notre confiance en Jésus-Christ. C'est dans ces épreuves-là que le Seigneur nous permet d'analyser et de voir si réellement nous croyons en lui ou pas. L'autre chose que j'aimerais souligner, c'est que pour cela, nous devons chercher à ressembler à notre maître. Le verset 36 nous dit ça. « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Donc, et pour cela, il faut, comme on le disait, trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il faut lire la parole, l'étudier, que vraiment la parole de Dieu soit le livre que nous lisons, que nous méditons, parce que nous avons besoin d'apprendre à connaître qui est ce Dieu que nous servons. Et ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est plein de bonté et un Dieu qui est miséricordieux, il est dit. Alors, soyons comme lui. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu, il souligne ça, il dit « Il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis. » Et bon, Luc ne le prend pas comme ça, mais Matthieu remet en perspective la loi, et tandis que, je veux dire Luc, mais je ne veux pas faire de comparaison comme ça, mais Luc ne souligne pas cet aspect. Pour montrer quoi ? Parce que Matthieu s'adresse à des juifs qui connaissaient la loi et il veut montrer que Jésus est au-dessus et qu'avec Jésus, on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Et parfois, par notre nature, nous voulons agir comme le dit la loi, œil pour œil, dent pour dent. Il m'a fait du mal, je vais lui faire du mal aussi. Et là, le Seigneur nous dit non. C'est plus comme ça. On n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Et la grâce, c'est justement le fait d'avoir ce qu'on ne mérite pas. La miséricorde de Dieu, c'est ne pas avoir ce qu'on mérite. Et le Seigneur, il use de miséricorde envers nous. Il est ce Dieu miséricordieux et il nous demande d'user de grâce, de faire preuve de miséricorde envers aussi notre prochain. Et c'est comme cela que nous allons montrer que nous sommes enfants de Dieu, et c'est aussi peut-être par ce biais que notre ennemi peut comprendre que Jésus peut aussi changer son cœur, que Jésus peut le sauver comme il nous a sauvés, parce que nous aussi, nous avions aussi un cœur dur. C'est pour ça que l'apôtre Pierre il dit d'avoir au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Voilà. Et donc, le Seigneur, il est là avec nous au quotidien. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Et il nous aide à surmonter les difficultés que nous rencontrons. Et vous dire que si vous cherchez en Dieu les forces dont vous avez besoin, donc si vous trouvez votre plaisir dans la loi de l'Éternel, alors le Seigneur saura vous accompagner, il saura vous donner l'encouragement dont vous aurez besoin, la force dont vous aurez besoin pour tenir ferme face à la difficulté et vous donner la victoire. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Si le Seigneur vous dit « aimez vos ennemis », alors Seigneur, vous pouvez dire « Seigneur, oui, j'ai du mal, c'est pour moi impossible. » Quand j'étais jeune, j'entendais ça même parfois à l'église. « Ah oui, moi je pardonnais ça, mais ça, jamais je vais pardonner. » Mais non, il ne faut pas raisonner comme ça. Le Seigneur veut que nous soyons différents des autres. Il veut que nous montions quelque chose a changé et que s'il nous a changé, il peut changer aussi l'autre. L'autre qui est en face de nous, le méchant, celui qui nous fait du mal, il a besoin aussi de la grâce de Dieu. Dieu veut le sauver aussi. Donc peut-être qu'il veut nous utiliser pour cela. Donc à nous de ne pas être comme eux, mais à nous de nous montrer que nous sommes différents parce que Dieu nous a rendus différents et qui nous donne les capacités. Et donc, oui, Dieu use de patience envers tous les hommes, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Donc, n'oublions pas cela, frères et sœurs. Nous voyons l'autre, nous voyons l'adversaire, et parce que nous avons ce problème-là, mais voyons au-delà, voyons cette joie qui nous est réservée, et connaissant cette joie qui nous est réservée, affrontons la difficulté avec la force que le Seigneur nous donne et il nous rendra aussi plus que vainqueurs. Amen.